Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, Liliane Oran, présidente de Souria, et Jeannot Margier, enseignante dans cette association qui fait pratiquer des seniors sur yoga sur chaise. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors j'étais très court dans mon introduction parce que je vais vous laisser nous présenter ce qu'est le yoga sur chaise, à quoi ça sert et comment ça se pratique. Alors peut-être commencer par le début. D'où vient le yoga sur chaise, Jeannot ?
Mais le yoga sur chaise vient du yoga, bien sûr. C'est une adaptation en fonction de la réalité des corps tels qu'ils se présentent, tels qu'ils sont. Et c'est l'adaptation du yoga dans des pratiques qui peuvent concerner des gens ayant des pathologies parfois importantes ou en situation de fauteuil roulant. Si je prends des exemples comme des accidents vasculaires cérébraux, la maladie de Parkinson, et toute une série de pathologies qui permettent finalement de prendre soin de soi. Et l'idée, c'est toujours que là, le yoga se déplace vers les personnes. Parce qu'il y a une possibilité, il faut garder ce lien important sur le fait du corps tel qu'il se présente et de l'action à mener sur ce corps et sur l'esprit, puisque c'est toujours en lien, le corps et l'esprit, dans la pratique du yoga.
Donc ce yoga s'est adapté à des personnes à mobilité réduite.
À mobilité articulaire réduite ou donc ayant des maladies ou des grosses pathologies qui font qu'il y a un intérêt important à ce que le corps puisse rester dans ce minimum de mouvement puisque le mouvement fait partie de la vie.
Est-ce que tu pourrais nous résumer une séance de yoga sur chaise ? Comment ça se passe ?
En fait, la séance de pratique de yoga sur chaise, elle démarre, on peut dire, par une intériorisation. C'est-à-dire que bien souvent, je propose simplement que les personnes puissent s'intérioriser en observant leur respiration, tout simplement. Simplement les capacités aussi d'observer que l'inspiration génère des mouvements à l'intérieur du corps, que l'expiration aussi permet de favoriser donc un lâcher-prise également, mais d'être vraiment dans les sensations, dans les vécus intimes des sensations qui s'expriment au travers de la respiration, puisque la respiration, c'est la source de la vie.
D'accord, donc tu commences par la respiration.
L'intériorisation, et puis après, donc, un travail sur le corps qui va concerner à la fois donc, un travail postural sur les bras, sur l'adaptation, sur comment lever un bras, puisque quand on ne peut plus lever un bras, c'est problématique. Et c'est aussi, donc, tout. En fait, l'idée, c'est que c'est de préserver les gestes du quotidien dont on a besoin pour vivre, tout simplement. Donc il y a un mouvement des bras, un mouvement des mains sur les articulations, des poignets, sur le travail des doigts également, sur le travail des jambes. C'est comment aussi étirer sa colonne vertébrale quand on est sur une chaise, comment solliciter les dorsales, comment les cervicales peuvent être concernées, tout ça. En fait, tout le travail sur le corps est important. Il est fait aussi dans l'écoute de ce qui se passe en nous, puisque c'est un petit peu ça. Donc, puis le travail de la voix intervient également parce que la voix, c'est de la vibration. La vibration, c'est vraiment une nourriture aussi au niveau interne, au niveau de notre respiration cellulaire. Et puis donc le travail aussi sur la voix, le rire, les expressions pour favoriser le mouvement du diaphragme, etc. C'est du yoga. C'est du yoga, c'est simplement qu'il y a un regard un peu spécifique avec des gens qui ont des pathologies parfois importantes, différentes. Et donc la différence dans les pathologies, puisque c'est un petit peu contenu dans le livre, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il dégage une forme de solidarité et de fraternité à l'égard des uns et des autres. On n'a pas le même regard, sur une personne ayant eu un AVC ou les choses sont différentes pour une personne qui a Parkinson dans l'évolution de sa maladie, etc. Donc, y a, en fait, l'idée, c'est de partager. L'idée fondamentale, c'est la reconnaissance de la personne, bien sûr, et le partage, puisque dans le partage, on revient vraiment à des possibilités donc de confiance. De confiance, c'est-à-dire aller dans les régions qui sont limitées. On éprouve des limitations et tout un chacun d'ailleurs ici en disant ben, « moi c'est plutôt le côté droit qui me pose problème, plutôt la hanche droite, etc. » Donc on est dans des limitations parfois importantes, mais disons que si on met de la bienveillance dans les zones limitées de notre corps, on favorise la circulation de l'énergie dans ces mobilités réduites.
J'aime bien ce terme de bienveillance et on y reviendra. Mais effectivement, j'ai oublié de dire que vous veniez, hein, Liliane et toi-même, à l'occasion de la sortie de ton livre qui est sorti récemment, je suppose, qui s'appelle « Le yoga sur chaise, changer le regard sur la vieillesse et le handicap ». Et un livre qui est disponible sur ton site et à la librairie Mosaïque. Et puis aussi parce que vous allez compléter l'offre des sessions que vous proposez, qui sont assez nombreuses, peut-être qu'on les listera plus tard. Et vous en lancez trois autres. Un à Luz-la-Croix-Haute à la salle des Aiguilles, un à Châtillon à la maison de Saint-Jean et un autre atelier à Die à la salle Arc-en-Ciel. Si je les compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en aura 11 en tout, plus d'autres que tu fais par ailleurs. Donc c'est parce que vous allez lancer ces ateliers supplémentaires et parce que tu viens de sortir un livre que vous êtes là pour en reparler, comme je le disais, parce que tu es déjà venu en 2013. Alors Jeannot, ça fait peut-être presque une dizaine d'années que tu t'es lancé là-dedans. Est-ce que tu es à l'origine du yoga sur chaise? Et peut-être question supplémentaire, subsidiaire, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à cette problématique des gens à mobilité réduite en particulier?
Ce qui m'a intéressé dans cette pratique, c'est aussi peut-être l'expérience de vie que j'ai eue aussi au travers des pathologies que j'ai rencontrées, des personnes en difficulté, que ce soit socialement ou psychologiquement. Donc je me suis posé la question, pourquoi tu as mis en place quand tu as été retraité cette pratique? En fait, en remontant un petit peu, donc je l'ai décrit un petit peu dans le livre, ce pourquoi. Et donc l'idée, en fait, c'est que j'ai toujours été assez sensible sur l'idée de franchir nos différences, quoi. Et j'avais l'exemple dans ma famille, justement, dont je parle dans le livre, d'une personne handicapée qui n'était pas reconnue par son père lui-même, etc. Donc, en fait, ça a toujours été pour moi ce sens de franchissons nos différences pour pouvoir... Il n'y a aucune raison. Et puis, en fait, ça repose vraiment sur... quelque chose sur cette notion de partage, de bienveillance, cette bienveillance qui nous amène dans la non-violence. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui est un petit peu dans mes tripes, on va dire. C'est tout simple, hein. Et en fait, l'organisation de cette pratique, c'est vrai que j'ai réfléchi sur les mouvements de l'être humain, mais on retrouve ça en yoga classique aussi, hein. Mais ces mouvements, et d'essayer de les mettre en place dans la bienveillance, pour que chacun puisse y retrouver un petit peu, hein, et il y a donc cette idée d'humilité aussi, donc si je ne peux pas lever mon bras, je vais faire des répétitions sur un mouvement qui va dire comment je peux le tourner mon bras, comment il peut se lever, comment ça peut se passer, donc il y a une adaptation, il y a aussi un lien important aussi peut-être parfois aussi au niveau du toucher, hein, puisque dans certaines pathologies, la contraction musculaire est tellement importante qu'il convient de pouvoir favoriser une aide, enfin, en tout cas d'aider la personne à pouvoir lever le bras pour que justement lutter contre ces tendances à la fermeture, tendances à la fermeture qui existent partout chez tout être humain. Hein. Si on ne fait pas attention, les épaules avancent, la cage thoracique elle se referme, la respiration est complètement moindre, etc., etc., le diaphragme ne circule pas. Bon, ça c'est des éléments complètement classiques, mais qui prennent des dimensions parfois importantes suivant les pathologies. Donc il faut vraiment aussi... rester dans cette idée encore de bienveillance, parce que cette bienveillance, elle nous amène aussi à observer le corps tel qu'il est. Voilà. c'est pas le corps que nous avons, c'est le corps que nous sommes. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important que le yoga puisse se déplacer vers les personnes à mobilité réduite, qui s'expriment de façon différente aussi dans les villages. Suivant les situations, il y a des situations de handicap qui sont plus légères que d'autres, etc. Donc il y a des fois des modifications, des répétitions qui sont importantes, etc. Enfin, il faut le vivre, quoi.
Oui, moi je voudrais bien revenir un peu sur la genèse de l'histoire de yoga sur chaise. En fait, Jeannot a démarré ses ateliers, il a proposé ses ateliers à l'hôpital au départ, à la maison de retraite, il y a environ 8 ans, peut-être un peu plus. Et à partir de là, il s'est intéressé à ce qui se passait pour tout ce qui concerne les personnes âgées et handicapées sur le Diwa, vu qu'il travaillait à l'ESAT avant aussi, donc il avait tout ce recul par rapport à cette problématique. Et en fait, au niveau de la commission gérontologique du Diwa, qui est conduite par Martine Chazelle, qui est responsable du CLIC, donc, il a proposé rapidement des ateliers de yoga sur chaise pendant la semaine bleue. Et en fait, ça a déclenché plein de besoins, ou d'envies, ou de demandes. Et suite à ça, Martine Chazelle a proposé des ateliers de formation pour une première année, pour former en fait des bénévoles. Et puis on s'est aperçu rapidement que les bénévoles, ils pouvaient pas faire le travail d'enseignants de yoga parce qu'ils sont loin d'être profs de yoga pour la plupart. Et donc on a un peu travaillé les choses différemment et on en est arrivé rapidement à la constitution de cette association qui s'appelle donc Surya Yoga sur Chaise. Avec l'aide toujours ou poussée par Martine Chazelle du CLIC pour mettre cette formation en place, sachant qu'en parallèle à tout ce que Jeannot faisait par ailleurs dans l'autre groupe de yoga, etc., il proposait des ateliers pour des enseignants de yoga pour les former au yoga sur chaise. Donc il a formé des enseignants de yoga, pas seulement sur le Diwa, hélas, on manque d'enseignants de yoga sur chaise dans le Diwa. Mais il en a formé beaucoup au fil des années pour toute la France et du coup il est appelé un peu partout, ce qui fait que c'est vrai qu'il a été obligé de choisir un peu entre tout ce qu'il pouvait faire. Et on a donc offert il y a 2 ans, 3 ans maintenant, des ateliers de yoga sur chaise dans les villages. En fait, il y en a 1 sur 10 à l'UNRPA qui se fait toutes les semaines. Un à Nunc, pour le groupe de Nunc, un peu particulier, parce que là, c'est des gens atteints de la maladie d'Alzheimer, donc ils sont encore plus fragiles, mais là, on les voit une fois par mois. Il y en a un à Saint-Julien-en-Quin, un à Saint-Nazaire-le-Désert, un à Luc-en-Divois et un à Lesat à Recoubo. Et puis un aussi à Saillant, qui faisait à ce moment-là partie du CLIC du Divois. Bon, c'est un peu différent maintenant, mais il a toujours cours. Et là, on ouvre donc 3 nouveaux ateliers sur un supplémentaire sur 10, parce qu'on a énormément de demandes sur 10, à la salle arc-en-ciel, donc à partir de janvier. Pareil à Châtillon aussi, à partir de janvier, à la maison Saint-Jean. Et puis un autre qui sera ouvert sur Luce aussi, à partir de la même période. Voilà, donc tout ça pour faire face à toutes les demandes que nous avons, puisqu'actuellement, nous avons à peu près 120 inscrits, peut-être un peu plus à ce jour, et que ça va être encore, il va y en avoir encore plus en janvier. Je voulais revenir sur un point que Jeannot avait dit par rapport au village. Effectivement, le contrat qu'on avait avec le CLIC, en somme, une sorte de contrat, c'était d'aller vers. Parce que on sait très bien que les gens de Saint-Nazaire-le-Désert, par exemple, ils vont pas venir à Die pour faire du yoga sur chaise. Donc c'était très important d'aller vers eux et de pouvoir leur proposer ces ateliers. Voilà, et c'est ce qu'on fait.
En fait, vous êtes doublement adapté à ces personnes à mobilité réduite, non seulement par la pratique, mais en plus spatialement en allant dans leur village.
Oui, tout à fait.
Oui, parce qu'il y a une dimension qui est quand même importante, c'est que c'est le yoga qui se déplace vers les personnes. C'est aussi ce regard qui a été un petit peu validé par Martine Chazelle aussi, parce que effectivement, là, l'idée, c'est que on se déplace vers les personnes. C'est aussi un facteur qui est intéressant dans l'énergie de vie que les personnes peuvent avoir dans les villages. Et c'est aussi pour lutter contre la solitude et l'isolement. C'est aussi pour retarder des échéances possibles au niveau institutionnel, style maison de retraite, voilà, des choses comme ça. Et donc, ça s'inscrit vraiment dans un processus important. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les formations que je propose touchent vraiment des gens qui viennent, des profs de yoga qui viennent du sud-ouest, du sud-est, du nord, enfin, voilà. Et donc, parce qu'il y a une demande, ça correspond à une réalité. Voilà.
Donc, on pourrait dire que maintenant, il y a un nouveau yoga, c'est le yoga sur chaise, qui a été pas encore codifié. Je ne sais pas si tes exercices que tu peux décrire un petit peu dans ton livre, je suppose que ça pourra s'enrichir de moult exercices à travers les âges, mais ça n'existait pas et maintenant ça existe, le yoga sur chaise. C'est ça que je voulais dire.
Ben, il existait sur le plan individuel, il n'existait pas sur le plan d'une pratique collective telle qu'elle se passe et telle qu'elle se déroule actuellement dans le Diwa, dans les villages, dans les institutions, maisons de retraite, etc. Parce que il faut, c'est vrai que, moi je dis souvent, il faut enfoncer le clou dans cette direction. C'est extrêmement important compte tenu de la réalité sociologique de la France telle qu'elle se présente aujourd'hui, le nombre de personnes qui ont entre dans 10 ans, comment ça va se passer. Et puis, il n'y a aucune raison que des gens qui n'ont pas pratiqué le yoga ne puissent pas commencer, que ce soit à 80, 85. Il n'y a aucune raison. Il y a une sensibilité qui peut s'inscrire et donc il faut y aller.
Je corroborerai en disant que, effectivement, l'intériorité n'a pas d'âge.
Évidemment.
Hein, bien sûr. Et au contraire, il serait temps de s'y mettre, même à 85 ans, si d'aventure le pli n'est pas encore pris, ouais, si je peux me permettre.
Bien sûr.
Alors justement, qu'en pensent les pratiquants? Tu as parlé de 120 pratiquants. Quel est le retour que tu peux avoir de ces gens qui se sont mis au yoga sur chaise?
Si, Jeannot, moi je voudrais que tu parles de cette dame de l'hôpital, je crois, qui pouvait plus servir de ses mains. Que tu racontes cette histoire, parce que je trouve ça merveilleux.
Voilà, donc en fait, il y a des fois des progrès qui peuvent apparaître comme un peu spectaculaires, bon, bien sûr que ce n'est pas forcément le lot de tout le monde, bien sûr. Mais si on prend un exemple, c'est pour dire que quand on est en conscience, quand on pratique des exercices dans la séance de yoga, et que ces exercices, on se les approprie, on se les fait quotidiennement. Et là, cet exemple, c'était effectivement que moi, le travail sur les bras, sur ces chaînes musculaires énergétiques et nerveuses qui remontent jusqu'à la colonne vertébrale, on sait très bien qu'une pression sur les cervicales peuvent avoir une action sur le bout des doigts. Bon, il y a un lien vraiment important entre les organes et puis donc la main, les doigts, etc. Ça, c'est vraiment évident. Donc, en fait, cette personne qui avait 92 ans, elle a eu la conscience de répéter tous les jours, parce que ça lui faisait du bien, les mouvements sur poignet, sur doigt de la main, sur tous les exercices que je proposais, parce qu'elle pouvait plus écrire. Et au bout de 6 mois, elle est venue me voir et elle m'a dit, mais c'est merveilleux, là je peux de nouveau prendre le stylo. En fait, ce qui est déterminant aussi, c'est la répétition, c'est la constance qu'elle a eue dans la conscience qu'elle avait elle-même de son corps et de ses difficultés qui lui ont permis d'arriver à ce résultat super, quoi. Parce que effectivement, c'était pas gagné. Parce qu'on se dit souvent, ouais, mais à 92, 95, attends, on peut pas prétendre que, etc. Mais il y a toujours des progrès possibles dans cette pratique, si c'est pas sur le plan physiologique où il y a une baisse des fonctions, c'est aussi sur le plan spirituel, c'est aussi sur le plan de la conscience. Et c'est ça qui est fondamental. Quand il y a une harmonie qui se dégage, quand il y a le mental qui est prêt, donc le mental donc qui se différencie peut-être de la conscience profonde, on va dire, hein, bien sûr, mais il y a vraiment des possibilités. Et puis s'il y a une chose qu'il faut essayer de voir, c'est en conscience de faire des répétitions dans les difficultés de mouvement du corps. Et ces petites répétitions, si elles sont faites en conscience, en bienveillance, elles peuvent ouvrir des petits progrès, aussi minimes soient-ils.
Donc globalement, vous avez répondu à ma question. Les pratiquants peuvent en retirer des bénéfices, ne serait-ce qu'au niveau sérénité, même s'ils ne sont pas forcément spectaculaires au niveau physiologique, même si ça peut arriver. Peut-être on pourrait revenir un peu sur les formations, parce que ça, c'est passionnant. À qui s'adresse-t-elle? Alors, vaut mieux être professeur de yoga, hein, si j'ai bien compris quand même. Hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est des enseignants de yoga qui sont venus des fois dans mes week-ends, ou s'ils ont une information par des revues spécialisées de yoga, et des rencontres ont pu se faire. Il y a eu des souhaits aussi de ces personnes-là de travailler dans cette direction, parce que là il faut pas se leurrer, il faut être avant tout motivé pour travailler dans cette direction, avant tout motivé. Bien sûr que ça s'adresse prioritairement aux enseignants de yoga, ça c'est évident. Donc en septembre dernier à Grimone, ils étaient quand même 21 personnes venant d'un peu partout, et du coup il y a quelque chose de fort qui se dégage de ces formations. Il y a une reliance qu'il faut maintenir, qu'il faut avoir avec les personnes, comme en yoga traditionnel normalement, mais voilà, c'est peut-être un petit peu plus aigu dans le fait qu'il faut se sentir relié pour continuer cette pratique, d'autant que ces derniers temps il fallait être très motivé pour aller voir dans les maisons de retraite, malgré les difficultés, malgré les problèmes qu'il peut y avoir, donc d'organisation, de fonctionnement, de personnel, etc. C'est vraiment important de pouvoir aller dans cette direction. Il y a plusieurs personnes qui sont déterminées à y aller, et ce sont des enseignants qui ont souhaité donc être initiés à cette pratique collective. Parce qu'on n'invente rien, finalement. C'est une pratique collective, c'est un travail. Il y a des possibilités, il y a des évolutions possibles au sein même de la pratique. Tout est possible. Mais il faut partir de la reconnaissance de la personne.
J'ose espérer que, mais je le sais, je pose une question, je ne sais plus comment ça s'appelle, une question dont je connais la réponse. Néanmoins, je suppose que tu en retires des bénéfices de voir ces seniors, nos anciens, récupérer ou un peu de mobilité ou être heureux de participer à tes exercices.
Je crois que c'est déjà quand on est ensemble, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Voilà, bon, c'est pas, bien sûr que cette pratique, elle ouvre à d'autres possibles, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que je peux aussi concevoir que sans bouger un membre, je peux concevoir en conscience la profondeur de ce qui se passe dans le membre qui ne peut pas bouger, par exemple. Voilà, ça c'est important.
Petite considération matérielle, comment ça se passe? Est-ce que c'est payant? Comment vous faites pour, si j'ai bien compris, tu n'es plus le seul à dispenser ces cours, vous faites payer, comment ça se passe?
Alors, à la création de cette association, on a décidé que ça ne devait pas être cher. Que ça ne devait pas être cher pour les pratiquants, parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de gens du troisième âge, en tout cas de ceux qu'on touche pour l'instant, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc on a décidé que, au départ, il n'y avait même pas d'adhésion à l'association, et l'adhésion à l'association a démarré cette année, et c'est 10 euros par an. Et si les séances ont lieu tous les 15 jours, c'est 30 euros pour l'année, ou si c'est toutes les semaines, c'est 60 euros pour l'année. Donc ça reste extrêmement abordable a priori pour tout le monde, et c'est un choix, on veut essayer de faire perdurer ça. Du coup, effectivement, comme on paye les enseignants, on les paye pas beaucoup, mais on les paye quand même, et on paye aussi les kilomètres, parce que là, il y a énormément de déplacements, quand on se déplace sur Saint-Nazaire, Saint-Julien, Luce, Luc, enfin bon, voilà, il faut quand même rembourser un minimum les kilomètres aux enseignants. Et donc on a été obligé de faire appel à des subventions, et on a eu la chance de pouvoir obtenir une subvention des Petits Frères des Pauvres qui nous ont vraiment beaucoup aidés, et qui la subvention qu'ils nous ont donnée il y a maintenant un peu plus d'un an devrait pouvoir nous aider jusqu'au moins au mois de juin 2016. Et en ce moment, je suis bien entendu en train de travailler d'autres dossiers de demande de subvention, parce qu'après on aura encore le même problème pour le fonctionnement de l'association. Voilà.
Donc, si d'aventure des seniors nous écoutent, comment peuvent-ils vous contacter ?
Ils peuvent nous contacter. De toute façon, là, en début d'année, on va passer un message dans le journal de Die. Donc, c'est encore celui qui est pas mal lu par cette catégorie d'âge. Et puis, sinon, ils peuvent nous contacter, soit moi, au 04 75 21 83 32. Ou bien Jeannot au 04 75 22 22 55.
Je crois qu'il y a un site web, puisque tu y vends ton livre, donc le yoga sur chaise, changer le regard sur la vieillesse et le handicap, et aussi peut-être des renseignements, et peut-être tu réponds à des mails sur ton site, je suppose.
Oui, bien sûr, oui. Bien sûr qu'en fait, c'est un livre qui est fait à compte d'auteur. Donc, ils passent pas forcément par les circuits d'édition. Il y a des dépôts qui se font dans les librairies. Les enseignants qui le commandent, ben, je l'envoie avec les frais de port, etc. Parce qu'en fait, ce livre donc, est vendu, donc, bien sûr, dans l'Hexagone, mais aussi en Belgique, en Italie, un peu en Espagne. Voilà, donc on peut dire que ce livre correspond peut-être, je pense en tout cas, à une pratique qu'il s'agit de développer. Quoi.
Enfin, le site de Jeannot est en dehors de l'association. Hein. Mais disons que Jeannot peut répondre pour son site et pour l'association, il n'y a aucun souci.
Pour commander ce livre, je le mettrai sur la page internet, un lien direct, mais je vous le cite quand même, c'est www.jeannot-yoga.fr. Voilà. On a parlé des seniors, voire des personnes qui auraient eu des accidents vasculaires de circulation. Est-ce que ce yoga peut s'adresser à des gens qui ont des handicaps particuliers, voire mentaux, ou voire physiques ?
Ce yoga peut s'adresser à tous. Hein. Donc, il suffit d'être présent et puis de pouvoir s'adapter à la pratique. Mais vous savez, en fait, la situation de handicap, que ce soit donc aussi dans le fait de ne pas pouvoir bouger ses membres, que ce soit en paraplégie, que ce soit en tétraplégie, il n'y a pas de raison. Le yoga s'adresse à tous. Donc, ce travail, quand on est en fauteuil roulant, prend une dimension un petit peu différente. Mais moi, je sais que j'ai eu l'occasion de venir dans des centres de vacances pour handicapés physiques dans le Trièves, où je vais régulièrement, où là, c'est du polyhandicap. Hein. C'est quelque chose de très fort. Mais il y a une situation intéressante dans le fait que tous les mouvements sont proposés, ils ne sont jamais imposés. Et ça, il faut le réaffirmer, et c'est-à-dire qu'il faut rester en conscience dans les possibilités que le corps peut avoir, en tout cas partir du corps tel qu'il est. On n'a pas d'autre choix que d'accepter ce qui est. Au départ, c'est vraiment ça. Hein, c'est pas que la mobilité articulaire réduite, c'est la situation de handicap qui fait qu'on est parfois dans une situation de dépendance, en fauteuil ou différemment, où vous avez des maladies orphelines qui sont finalement importantes, que moi je vois aussi dans certains groupes, que ce soit à Die, que ce soit à Saint-Julien-en-Quin, des difficultés. C'est pas marqué dessus, c'est pas marqué sur le corps, mais c'est des grosses difficultés qui sont inhérentes à la vie de quelques personnes, voilà. Donc, eh bien, on travaille dans cette direction, quoi.
Ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que les groupes sont partout, dans tous les villages que j'ai cités. Ils sont ouverts, bien entendu, aux personnes porteuses de handicap. Et qu'on a beaucoup de mal à les toucher. Donc, si vous écoutez cette émission et si vous en connaissez, s'il vous plaît, contactez-nous, parce que ces groupes sont ouverts pour eux aussi et qu'on voudrait en voir plus.
Tout à l'heure, vous avez évoqué les ZAT de Rokubo, dans lequel vous proposez un atelier. Mais là, ce sont des gens qui ont des problèmes peut-être plus mentaux, si je peux me permettre, non ?
Il y a toujours un lien important entre le corps et l'esprit. Hein. Souvent, quand le mental présente des signes, des difficultés, le corps en ressent. Quand le corps en des difficultés, le psychisme qui en ressent aussi. Donc, d'abord, à les ZAT de Rokubo, c'est ouvert à tout Rokubo. Ça va au-delà de les ZAT. Il faut quand même bien confirmer cela. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui habitent Rokubo qui peuvent venir. Donc, on a la chance que la Croix-Rouge puisse accepter de pratiquer dans cette salle, parce que c'est une belle salle, c'est une grande salle, etc. Mais c'est pour Rokubo, ça s'adresse aussi à tous les habitants de Rokubo. Le problème, c'est de pratiquer ensemble à partir de là. Bon, ben voilà. Hein, donc c'est pas que ce soit le handicap psychique ou le handicap physique, en sachant que des fois la frontière est délicate aussi entre les deux.
Je vois que tu es très bien organisé, Jeannot, parce que tu as réussi quand même à sortir aussi un DVD où peut-être tu montres certains exercices.
Le DVD a été conçu comme le point de départ, en fait, d'une promotion de cette pratique. Mais c'est aussi surtout pour expliquer les genèses de cette pratique, comment on en est venu à pratiquer cette séance. Donc, le DVD a été fait avant le livre. ça explique vraiment donc la genèse. Il y a quelques images qui viennent de la maison de retraite de Die. Voilà, quelques explications. Et puis après, ben, bien sûr, le livre va être plus précis, plus ciblé avec les photos, les commentaires et la ligne à suivre pour réaliser ou pour tenter d'aller vers ce travail postural.
Mais peut-être à terme, tu pourrais imaginer de faire un DVD où ce cycle de posture soit bien décrit et que les gens puissent suivre sur un écran de chez eux, non ? Ou est-ce que c'est dangereux de pratiquer seul ?
Déjà, bon, le problème peut se poser, mais pour l'instant, il y a le livre qui est quand même un outil quand même important. Et c'est vrai que moi, je suis pas trop dans les technologies de pointe. Ceci dit, c'est vrai que il y a des choses possibles. Mais bon, je pense que déjà, le livre, pour l'instant, est vraiment l'outil peut-être le plus important qu'on puisse avoir pour développer un peu cette pratique.
Eh bien, écoutez, merci Liliane et Jeannot d'être passés à Erdiwa pour parler de ce yoga sur chaise. Une pratique, comme tu l'as dit, avec le vieillissement actuel de la population qui correspond à l'ère du temps. Je vous souhaite de longues années de pratique.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. 1-terre-view.
Ok. Bye.
L'interview du jour.